Bonjour.
Alain Rey, en quoi, je vous pose la question parce que vous venez de sortir votre nouvelle édition augmentée du Robert historique de la langue française, donc il y a les mots, et puis il y a l'histoire des mots. D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là? Et quel a été leur parcours? Quel est l'intérêt de savoir quelle est l'origine d'un mot de la langue française?
C'est assez important parce que quand nous employons les mots innocemment, si vous voulez, on est en partie conscient, mais en partie seulement, de la richesse qui trimballe avec eux et de leur passé. Parce que l'histoire d'une civilisation est marquée par l'histoire de sa langue. Et l'histoire de la langue française, c'est quand même 1000 ans d'activité sur un territoire qui n'a cessé d'augmenter, puisque on ne parlait pas français dans tous les points de l'Hexagone au Moyen-Âge.
Mais même après, parce que en fait, j'ai appris avec la documentation sur vous que en 1914, au début de la Grande Guerre, un poilu sur deux dans les tranchées ne parle pas français.
Ne parlait pas français. Ils ont été obligés d'apprendre le français par force. Les officiers savaient tous parler le français. Oui. Les soldats étaient souvent des paysans et
ils parlaient le patois local.
Ils parlaient leur patois local ou la langue locale, si c'était le breton ou le basque, c'est beaucoup plus qu'un patois, c'est une vraie langue.
C'est vrai.
Tout ceci faisait une nécessité de communication où le français servait de passage obligé entre des personnes d'origine différente.
Alain Rey, bien évidemment, au fil de ces 3 tomes de ce nouveau dictionnaire historique de la langue française, on apprend des milliers de choses à chaque page. On ne va pas passer toutes les pages ici à la radio, mais dites-nous un mot. Un mot qui est très marquant, qui est très parlant de ce dictionnaire et qui explique des choses.
Peut-être. C'est extrêmement difficile, il y en a plus de 60 000.
Ben je sais bien. Et on en utilise 10% au maximum.
Même pas 10%.
Je vous laisse juger. Choisissez-en un qui vous plaît particulièrement alors.
Écoutez, je ne sais pas, un mot comme culture, par exemple, qui a concurrencé civilisation. Civilisation, c'est un mot hiérarchique qui fait qu'on est plus ou moins civilisé. Culture, c'est un mot qui est plus neutre, qui représente... Alors, il est passé par l'allemand, il est passé par diverses langues, et finalement, il a abouti en français à quelque chose qui est devenu extrêmement important, même au point de vue institutionnel, à partir de gens comme Malraux.
Ouais.
Alors, à partir de ce moment-là, le mot culture a plusieurs sens. Il a le sens général, qui est intellectuel, et puis il a des sens administratifs très... Il y a des institutions culturelles qui sont...
Absolument.
Donc culture et culturel changent d'importance.
Alain Rey, à vous le lexicologue et le linguiste, je pose une question très simple que je pense tous nos auditeurs se posent. Est-ce qu'il vous semble que les enfants d'aujourd'hui ne parlent plus français, n'apprennent plus le français et demain parleront une espèce de salmigondi qu'ils auront créé eux-mêmes?
Je ne pense pas du tout. Je pense que comme à toutes les époques, les enfants avaient des manières de parler quand ils sont en apprentissage de la langue, avec un appauvrissement énorme du point de vue des adultes, mais qui en réalité est compensé par des richesses que nous ne connaissons que très mal. Les enfants ont une syntaxe à eux qui est parfois plus profonde que la syntaxe des adultes. Ils n'ont pas encore d'écriture, et n'ayant pas encore d'écriture, il y a une souplesse de la langue qui était celle de l'ancien français, par exemple au Moyen-Âge, et qui a été perdue dans la mesure où tout le monde s'est mis à lire et à écrire. Parce que quand on ne sait pas lire et écrire, on a le choix entre 1000 façons de s'exprimer, et quand on est dans l'écriture, dès qu'on fait un écart par rapport à la norme, c'est une faute. Ça, c'est dramatique.
Mais écoutez, Alain Rey, si vous recevez un curriculum vitae, par exemple, d'un jeune homme de 20 ans d'aujourd'hui qui cherche du boulot au Robert et qu'il est plein de fautes d'orthographe, vous le prenez?
Non.
Mais non, vous ne le prenez pas. Non. Notamment pour faire ce travail-là. C'est valable pour une banque ou pour n'importe quelle industrie.
Bien sûr, c'est un problème. Il faut absolument que les gens se mettent dans la norme. Mais c'est cette espèce d'ambiguïté de toutes les langues du monde qui est que... Elles ont des formes spontanées qui sont parfois très riches, très poétiques, et elles ont une forme et une seule qui est officielle, qui est normative et qui est réglée et qui est acceptée par la société au point de vue, de l'organisation de la société. Donc c'est vrai que et c'est la langue qu'on pratique sur les médias, et c'est la langue qu'on pratique dans les journaux, et c'est la langue qu'on va entendre, parfois appauvrie, parfois un peu déformée à la télévision, Et il n'empêche que c'est une langue unique. Et cette langue, elle garantit aussi l'unité de la culture. Parce que ce que j'essaye de montrer par ce livre, c'est qu'il y a mille façons de parler. Les Québécois ne parlent pas comme nous. Les Belges, assez différents. Quand vous passez la frontière suisse, le mot canton et le mot cantonal changent complètement de sens.
Absolument.
C'est tout à fait autre chose. Eh bien, tout ceci, j'essaye de le refléter en montrant que d'une part, il y a une variété considérable, que nous ne pratiquons qu'une très faible partie de cette variété, mais que cette variété reflète une unité qui est l'unité d'une culture, une manière de penser, une manière d'aborder les choses, qui est très profonde dans la langue, qui est la façon de conjuguer, qui est la façon d'utiliser le verbe, qui est la façon de mettre le sujet avant le verbe et le verbe avant le complément, à l'inverse de l'allemand, par exemple. Ouais. Et ça crée une manière de penser qui est commune et qui garantit vraiment l'unité culturelle de quelque chose qu'on appelle la francophonie, ce qui est un peu trop administratif, mais qui représente quand même quelque chose de vivant.
Alain Rey, je crois savoir que vous êtes persuadé d'une chose, c'est que l'usage, finalement, a toujours raison. Alors déjà, les académiciens français vont faire une crise cardiaque, mais ça, ils vous connaissent, ils savent que vous êtes un petit peu provocateur. Mais l'usage n'a pas forcément toujours raison. S'il y a une règle linguistique, non, de grammaire ou d'orthographe, l'usage qui est contraire à cette règle n'a pas forcément raison.
Un grand grammairien du XVIIe siècle, dont on connaît encore un peu le nom, qui est Vaugelas, a dit une chose qui me paraît merveilleuse, qui est « l'usage est le tyran des langues ». C'est-à-dire, oui, que l'usage est partout, que l'usage domine, mais qu'il y a un côté tyrannique, il y a un côté auquel on aimerait échapper de temps en temps. Et vous remarquerez que toute langue vivante a des utilisateurs qui sont les poètes, qui sont, ou les scientifiques, qui créent une langue nouvelle sans le savoir à l'intérieur de la langue existante. Et c'est ce mouvement que j'ai essayé de refléter dans un dictionnaire qui n'est pas historique au sens de l'histoire tout court, mais qui essaye de reconstituer l'histoire à travers ces espèces de fenêtres que sont les mots, qui sont la fenêtre sur la réalité.
La fenêtre sur la réalité, voilà ce que sont les mots selon Alain Rey, que je remercie d'être venu parler au micro d'Europe 1 ce dimanche matin. Je vous rappelle la parution de cette nouvelle édition augmentée du Robert historique de la langue française en 3 tomes. C'était il y a quelques jours. Merci beaucoup Alain Rey. Je vous souhaite un bon dimanche.
Merci à vous.